6 contre 1, de Cécile Alix, lu par l'auteur, aux éditions Magnard Jeunesse dans la collection Presto. Je sais bien qu'il faut que je redresse le menton, et que je les regarde dans les yeux, que je ne me laisse pas faire. Je sais bien que tout est de ma faute, que je suis une grosse chiffe molle, un gras du bide, un Big Mac. Que si j'étais normale, je n'aurais pas de problème. Je n'arrive pas à me défendre. Dès qu'il me frappe, je rentre la tête dans les épaules et je me protège avec mes bras. Je m'enroule sur moi-même. Je fais l'escargot. Mais je n'ai pas de coquille. Quand elle rentre à la maison et qu'elle découvre ma lèvre explosée et mon t-shirt déchiré, ma mère dit « Tu t'es encore bagarrée? Ce n'est plus possible, Ludovic !»« Non, maman, je ne me suis pas battue. » Ils me sont tombés dessus, à 6 contre 1. Je n'avais aucune chance. Je veux plus aller au collège. Ça va jamais s'arrêter, s'il te plaît. Je veux pas y retourner. Mais je me tais, parce qu'elle a la vie dure, ma mère. Elle n'arrête pas de me le dire. C'est pas facile, Ludo. Je suis toute seule, tout le temps. Je suis crevée. J'arrête pas de bosser. Tu es grand, maintenant. Aide-moi, au lieu de tout compliquer. J'aimerais bien passer inaperçue. Je ne leur demande pas d'être amie avec moi. Juste de me lâcher, de m'oublier, de ne plus me voir. Comment être invisible quand on pèse 93 kilos? J'aimerais bien être un homme, un vrai. Gonfler la poitrine quand il m'insulte, devenir un bloc de béton et parer les coups, foncer dans le tas. J'aimerais devenir une montagne. Je suis 2 fois plus lourd qu'eux, j'ai un physique de bulldozer, alors pourquoi je réagis comme un moineau? Quand je les vois arriver, je sais ce qui va se passer. Je serre les poings, les dents, tout ce qui peut se serrer. Je sens la colère en moi monter, monter. Je me transforme en gros rocher arrimé à une haine bien solide que rien ne pourra ébranler. Une claque et je casse. Je me brise. Je me ratatine. Aussi mou et gluant qu'un tas de boue. Chez moi, ce n'est jamais la colère qui gagne, c'est la peur. Hier, pendant le cours de maths, Julien m'a planté la pointe de son compas dans le ventre, comme ça, d'un coup. Je n'ai pas pu l'esquiver. J'ai eu mal, alors j'ai crié. Ça a fait un bruit ridicule de mouette enrouée parce que j'ai la voix qui commence à muer. Toute la classe s'est marrée et Alice a tourné la tête vers nous. Dans son regard, j'ai lu la pitié. La prof s'est énervée. « Ludovic, tu fais encore une fois le pitre et c'est le bureau du CPE. » Même dame, j'y suis pour rien. Défendez-moi au lieu de m'engueuler. À quoi ils servent vos yeux? Vous ne pourriez pas voir ce qui se passe pour une fois? J'allais me lever au milieu de la classe, hurler que j'en avais assez, que je ne supportais plus qu'on me traite comme ça, montrer à Alice que je n'étais pas le pauvre type qu'elle plaignait, que je savais me défendre. Que je pouvais être un héros quand j'ai vu son dos. Elle s'était retournée. Elle ne me regardait plus. Je me suis dégonflée. « Tu parles, t'es mort !» a murmuré Julien. Puis il a ajouté « De toute façon, babar, avec tout le lard qui t'enrobe, je suis sûre que t'as rien senti, alors fais pas ta victime !» Je l'ai regardé droit dans les yeux, mais ce n'était pas pour le défier. C'était pour le supplier d'arrêter. Il a repris son compas et il a piqué sèchement la pointe sur le bureau, puis il l'a tourné dans un sens et dans l'autre, en me fixant, avec un sale sourire. Dans le bois, un petit trou s'est creusé. J'ai eu chaud. J'ai senti mes joues devenir rouges et brûlantes. La sueur me dégoulinait dans le cou. Mon menton s'est mis à trembler. « Il va pleurer, bébé Bouboule? Il veut un Kleenex ?» pour essuyer la morve qui va couler de son gros nez ?» Julien a sorti un mouchoir de son sac et l'a agité devant moi. J'ai détourné le regard et j'ai fait semblant de me concentrer sur mes exercices. Quand la sonnerie a retenti, je me suis dépêchée de sortir, tête baissée. Sur mon ventre, pas loin du nombril, il y a maintenant une tache de sang coagulé bleu-rouge foncé, presque noir. Dimanche, je vais chez mamie. Je lui demanderai de m'apprendre à coudre. Je pourrai réparer mes vêtements moi-même et ma mère sera tranquille. Elle n'a pas mérité tout ça, comme elle dit. Chaque matin, c'est pareil. Mon futur est un éternel replay. Je me lève et j'agis comme un robot. J'essaye de ne penser à rien, de me mettre en pilote automatique, de ne pas ressentir. Je ne déjeune plus, mais je continue à grossir. Mes vêtements me serrent, j'ai l'impression d'être ficelée dedans. Je ferme la porte de l'appartement et je descends les escaliers en rêvant de déjà les remonter à la fin de la journée. Je ne fais plus attention à la couleur du ciel. Pour moi, tout est gris. Un perpétuel orage tonne au-dessus de ma tête. Je suis comme une vache qui marche vers l'abattoir en raclant ses sabots sur le bitume. Muette, la détresse enfoncée dans la gorge comme un poignard. Je passe devant la boulangerie. Avant, le parfum chaud des croissants me donnait la fringale. Maintenant, il m'écœure. Je longe la voie ferrée. Je traverse sur la passerelle. J'aperçois les murs de mon bagne, dressés au fond du parking de l'autre côté. Le son de mes pas qui traînent sur les marches en fer résonne comme celui des chaînes aux chevilles des forçats. Plus je m'approche du collège, plus je me sens lourd. Je suis mon propre boulet. Chaque jour, je retourne me noyer. J'existe contre mon gré. J'avance à reculons. Je suis le condamné qui sait son destin inéluctable. Chaque soir, je passe par la ville pour retourner chez moi. Je fais le grand tour et je perds une demi-heure. Je sais qu'ils viennent ici à la fin des cours, que s'ils me voient, ils vont me rentrer dans le lard et me casser la figure. Il y a 3 semaines, ils ont menacé de m'attacher sur les rails pour voir si la graisse giclerait quand le train m'écrabouillerait. Chaque nuit, je me lève sans bruit et je me remplis. Je me gave de chips, de pâtes d'amande, de cookies, de vache qui rit, de Nutella, de saucisson et de beurre de cacahuète. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est comme si toutes ces calories rechargeaient mes batteries et comblaient le grand vide qui me dévore. Le pire, c'est le cours de PS de M. Germain, les 2 dernières heures du vendredi. Un gros qui saute en hauteur, ça les fait mourir de rire. Je me mets en survêt dès le matin pour éviter de me changer devant tout le monde. Du coup, je passe pour un gros crade. Aujourd'hui, ça ne rate pas. Fin du cours, remake de la semaine dernière. Pourtant, j'avais prévu la faire. Je me glisse vers la sortie en évitant les vestiaires, mais ils me rattrapent dans le couloir et me poussent dans la pièce à grands coups d'épaule. Dès qu'on entre, les autres garçons de la classe se taisent. Ils s'habillent à toute allure et disparaissent encore plus vite. Je reste seule avec mes bourreaux. « Alors, Bouboule, tu vas encore mariner toute la soirée dans ta sueur de porc ?»« Julien, tu me fatigues. Fermez-la, toi et tes potes. Je le connais par cœur, votre refrain. Vous êtes tous branchés sur le même secteur. Hey, vous avez vu, les gars? 16-9e a les moyens. Il porte un jog Armani. » Cause toujours, je t'entends plus. Si tu savais comme je m'en fous de tes conneries, allez-y, lâchez-vous bien, qu'on en finisse. » Burp! C'est dégoûtant, toute cette gélatine dans ces fringues de bourge. Ça y est. C'est reparti pour le grand défoulement des crétins. Je l'aime bien, mon jogging. C'est mamie et maman qui me l'ont offert pour mes 13 ans. Hé, hey, Bouboule, t'écoutes quand on te parle? Non, du con. Je suis sourd. Tiens, prends ça. Ça te débouchera les tympans. Son poing s'écrase sur ma joue. Le choc me sidère. Je suis incapable de me défendre, alors il cogne encore, plus fort que d'habitude. Les autres aussi. Quelque chose explose dans ma tête et cette fois, je n'entends vraiment plus rien. Je m'affale par terre. De l'eau coule de mon nez. Je me passe la langue sur les lèvres. C'est du sang. Leurs poings s'abattent sur moi comme des grêlons de pierre.
Réagis, Ludo. Te laisse pas faire. Il suffit de le vouloir, remue-toi.
Je ne bouge pas. Qu'est-ce qu'elle en sait de ce que je veux, cette petite voix qui me secoue? Elle ne trouve pas que j'en bave assez? Je plaque ma paume sur mon oreille. La douleur est atroce.
Bouboule, bouboule, quand il court, il roule, quand il nage, il coule.
Il me traîne jusqu'aux douches. Il peine à me déplacer. J'essaye de résister, de me débattre, mais mes membres ne me suivent pas. Ma révolte reste au fond de moi. Elle n'éclate pas. Je suis fatiguée, si fatiguée. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pourquoi ils me foutent là-dedans?
Allez, on va laver Bouboule!
Julien tourne le robinet. L'eau froide jaillit comme un couperet, gicle sur mon crâne et mes épaules, plaque mes cheveux sur mon front, trempe mes vêtements. Je m'enroule comme un embryon. Je me calfeutre en moi-même. Je suffoque. J'ouvre la bouche. J'appelle l'air. L'eau s'engouffre. Je m'étrangle. Je m'étouffe. Je tousse en grosse quinte râpeuse.
Oh, c'est quoi ce bazar?
Le prof. Le prof qui braille en sourdine. Bizarre comme sa voix semble étouffée. J'ai l'impression qu'elle passe par un filtre. D'un coup, l'eau se tarit. J'aspire une longue bouffée d'air qui m'étourdit. Je sens une main se poser sur ma nuque. Je sursaute, me raidis. Je me recroqueville du mieux que je peux. Non, pitié, attendez. Attendez que je reprenne mon souffle. Attendez, attendez.
Ludo, qu'est-ce que...
Il est tombé dans la douche, monsieur. On essaye de l'aider à se relever, mais il veut pas. Il s'est fait mal en glissant. Faudrait peut-être l'emmener à l'infirmerie.
La main est large, ouverte. La paume presse mon épaule. Elle n'agresse pas, ne frappe pas. Elle cherche à m'aider. C'est celle de Monsieur Germain.
Nom de... Vous êtes malade! Qu'est-ce que vous lui avez fait?
C'est pas nous, monsieur! C'est lui qui...
Vous me prenez pour un abruti? Il est tombé dans la douche, tout habillé. Et vous, vous l'aidez à sortir sans couper l'eau, hein? Ah, je ne sais pas ce qui me retient d'eux! Allez, fichez-moi le camp, décarpissez! Et ne croyez pas que ça va se passer comme ça. Vous allez le regretter, bande de sauvages!
Il hurle sur Julien et les autres. Le son vibre jusqu'au bout de ses doigts. Tout me parvient atténué, comme dans un entonnoir bourré de coton. Ils sont partis, Ludo. Ils sont partis. Il essaye de m'allonger sur le côté, mais je suis trop raide, trop emmêlée. Tu peux bouger?
Je ne sais pas. J'ai pas envie. Je veux rester comme ça.
Tu vas essayer, mon grand. Je vais t'aider. Il me déplie, lentement, sans me forcer, un os après l'autre, au ralenti. Tout est tellement silencieux. Le calme après la tempête, dit tout le temps ma grand-mère. Je me mets à trembler, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si j'avais reçu une décharge électrique. J'ai froid, je claque des dents.
Calme, calme, Ludo, calme-toi.
Je voudrais bien, mais j'y arrive pas.
J'en peux plus, ça suffit. Je veux mourir, j'étouffe. C'est trop, 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 ça suffit.
Regarde-moi, Ludo. Ouvre les yeux. N'aie pas peur, c'est moi.
C'est fini, calme-toi, mon garçon. Là, là, attention. On va aller doucement. T'inquiète pas.
Le prof m'essuie avec une serviette, palpe mes bras, mes jambes, sans cesser de me parler. Il décrispe ma main plaquée sur mon oreille, relève mon visage avec douceur. Tu ne veux pas qu'on essaye de te sortir de cette flaque?
Je ne veux rien. Juste qu'on me fiche la paix.
Bon, je vais chercher de quoi te réchauffer. Dans le placard, on a des couvertures de survie. Je l'entends de l'oreille droite, mais de l'autre côté, la douleur s'accentue. Elle cogne comme une enclume du sommet de mon crâne en passant par le nez jusqu'à la naissance de mon cou. Le prof revient. Il soupire, s'accroupit à côté de moi et me couvre avec un papier doré très fin. Voilà, tu vas te sentir mieux. Je suis là, mon petit. Il téléphone à quelqu'un. Il parle de coups, de blessures. Il dit mon âge, mon nom, l'adresse du collège. Il raccroche, se penche de nouveau sur moi.
Tu m'entends, bonhomme? Fais voir ta joue.
Oh, purée, pauvre gamin. Je sens la brisure dans sa voix. Je lève la tête. Son regard est profondément triste, mouillé. Il ne peut pas pleurer. Ça ne pleure pas, un prof. Tu ne veux pas me dire quelque chose? Juste un mot?
Je ne sais pas quoi, monsieur. J'y arrive pas. J'ai mal, j'ai peur, j'ai honte. J'en ai marre. Tout ça à la fois.
C'est pas grave, Ludo. On va attendre tranquillement que le SAMU arrive. Il s'assoit sur le carrelage mouillé et m'entoure de ses bras. Je me laisse faire. J'ai l'impression de redevenir petit, ça me fait du bien. Mon ventre se dénoue, je pose la tête sur son épaule. On reste l'un contre l'autre, en silence. On se repose. Comme au creux d'un oreiller à la fois moelleux et irréel. Si j'avais moins mal, je crois que je m'endormirais. Je ne tremble plus. Je voudrais que ce moment ne s'arrête jamais. À l'hôpital, ma mère pleure beaucoup. J'ai des bleus partout et le tympan gauche crevé. Les sinus ont été touchés. C'est pour ça que j'ai saigné du nez. Elle a très peur que je devienne sourd, le médecin la rassure. Ça prendra du temps, mais il n'y aura pas de séquelles, de ce côté-là. Moi, je suis en stand-by. Je ne ressens plus rien. Elle m'embrasse toutes les 2 minutes, me promet que tout sera plus facile maintenant. Elle dit aussi que c'est de sa faute, qu'elle part tôt le matin, rentre tard le soir, et que je suis livrée à moi-même. Elle va changer ses horaires de bureau. Même si sa chef râle, elle tiendra bon. Elle sera là à 17h45 maxi. Elle me cuisinera des plats équilibrés. On pourra parler, aller se balader. Elle n'arrête pas de dire « Pardon, mon chéri, pardon ». Je lui réponds qu'il n'y a rien à pardonner. Qu'elle fait comme elle peut. Que je sais qu'elle m'aime. Je déteste qu'elle se sente coupable. Je ne veux plus jamais la voir comme ça. Je lui dis « Oui, maman, on sera bien. » Mais je ne crois pas à ces promesses de paradis. Ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. J'ai aussi la visite du proviseur, du CPE, de ma prof principale, de 2 policières. Ils parlent longtemps, en prenant des gants, comme on dit. Ils n'ont pas l'air à l'aise. Ils me conseillent de porter plainte contre mes agresseurs. Tu comprends, on ne pourra rien contre eux sinon. Je vois un psy aussi. Je ne balance pas. Je confirme que Julien et ses copains n'ont pas menti, que j'ai bien glissé dans la douche pour faire rigoler les autres, que personne ne m'a touchée, que je me suis pété l'oreille contre le robinet et le nez sur le carrelage, que si j'étais crispée et que je ne répondais pas à M. Germain, c'est parce que la chute m'avait sonné et que j'étais à moitié dans les pommes. C'est pas rien une glissade pareille. J'arrive même à rire. Ils ne me croient pas. Ils vont leur donner une leçon. Julien et sa bande passent en conseil de discipline. Verdict, 1 mois d'exclusion et interdiction formelle de m'approcher quand ils reviendront en classe. Ils doivent aussi me présenter leurs excuses de vive voix, ici, accompagnés de leurs parents. Te voir sur un lit d'hôpital par leur faute les aidera à prendre conscience de la gravité de leur acte. Je refuse. Ils ne vont pas s'excuser alors qu'ils n'ont rien fait, je dis. Le psy me parle. Je n'écoute pas. Ma mère me parle. Monsieur Germain me parle. Je n'entends pas. Je répète qu'ils ne sont pas coupables. Je ne veux pas les aider à comprendre. Je ne veux pas les voir alors que je n'y suis pas obligée. On me donne leurs 6 lettres. J'attends d'être seule pour déchiqueter les enveloppes et jeter au WC les mots de regret qu'on leur a dictés. Monsieur Germain est assis au bord du lit. Je sors de l'hosto tout à l'heure, il est passé me voir avant mon départ. Il dit « Pourquoi tu n'as pas voulu qu'on les punisse vraiment ?» Il s'en tire à bon compte, là. Je ne réponds pas. « Tu as toujours très peur d'eux, Ludo ?» Même s'il a mis un point d'interrogation, je comprends que ce n'est pas une question. « Bien sûr que j'ai peur. Je suis en sursis, je le sais. C'est pour ça que je n'ai rien cafeté. » Avec ces types-là, les chances de survie d'une balance sont aussi faibles que celles d'un moucheron englué dans une toile d'araignée. Comme d'habitude, les mots restent enfouis, rien ne sort. De toute façon, j'ai dit qu'ils n'étaient pas coupables. Pourquoi j'aurais peur? Ils sont sympas. Ils soupirent. Ils me regardent de longues minutes pleins de bienveillance et d'inquiétude. Ludo, si à l'avenir tu te sens en danger, même si tu n'en es pas sûr, tu viens me prévenir, d'accord? Je promets. Tu n'hésites pas, je compte sur toi. Je repromets. Alors il part, rassuré. Enfin, je crois. J'aime passer la semaine dans mon lit. Je suis dans un nid, Rien ne peut m'arriver ici. Retour au collège. Sans Julien et sa bande, c'est vivable. La plupart des gens évitent mon regard, mais Victor et Mathieu me tapotent l'épaule en passant devant le portail. Farid me fait un petit signe en cours de français. Et Alice me sourit de loin. Je comprends qu'ils hésitent à venir me parler. Julien va revenir. Faut pas bousculer les règles. Des fois qu'on s'éloignerait trop du chemin tracé par Sa Majesté. Et comme il y a toujours un ou deux mouchards non identifiés aux oreilles qui traînent, personne ne prend le risque d'être dénoncé. Je reste seule. Mais au moins, je n'évolue plus en milieu hostile. Jusqu'à quand? Le soir, je peux rentrer par le raccourci. C'est marrant de marcher sur la passerelle pendant le passage du Lyon-Paris de 17h06. C'est comme un mini-séisme. Au-dessus, il y a le ciel immobile. Dessous, le TGV déchaîné. C'est la machine contre la nature. Au début, on croit que la première gagne. Elle rugit, elle accélère, elle met la gomme, elle se fait remarquer, elle roule des mécaniques. Mais finalement, celui qui reste serein, tranquille, majestueux, celui qui ne prend pas de risques, c'est le grand plafond bleu. J'aime bien être au milieu, sans savoir si j'appartiens au monde d'en bas, à celui d'en haut ou un peu aux deux. Discours du proviseur avant la conférence de prévention contre la violence scolaire. Les enfants, si un jour l'un d'entre vous est harcelé, il ne doit pas garder le silence. L'équipe éducative est là pour vous aider. Le collège doit être comme une seconde maison dans laquelle vous ne devez pas vous sentir en danger, ajoute-t-il en me regardant d'un air protecteur. Je regarde ailleurs. Je ne suis pas concernée. Je n'aime pas plus les trémolos dans sa voix que le verbe « devoir » qu'il emploie à tout bout de champ. Tout le monde l'applaudit. Moi aussi. Son blabla ne me fait ni chaud ni froid. L'équipe éducative, c'est personne et trop de monde à la fois. Le collège n'est pas une maison, mais une prison. Les murs n'ont ni âme, ni cœur, ni visage. Aucun traumatisme ne les empêche jamais d'abriter des générations et des générations d'élèves. Bourreaux, victimes, qu'est-ce que ça peut faire? Tout passe, rien ne s'imprime. Le proviseur a oublié d'évoquer les gens, finalement. Le psychologue qui nous parle pendant 2 heures, c'est celui que j'ai vu à l'hosto. Il a la tête du type ouvert qui veut bien faire, mais qui ne peut pas grand-chose si en face l'autre ne donne pas son accord. Il a raison. Je n'ai pas donné mon accord, désolé. En même temps, c'est pas lui qui prend le risque de se faire tabasser. Moins t'en dis, moins t'es en danger, c'est ma devise. Il nous passe des vidéos d'ados en souffrance, qu'il commente. Il dit « gestion des conflits, public vulnérable, solidarité active, effet boomerang, stratégie de résistance ». Je découvre qu'il existe un lexique savant et imagé pour décrire le problème. Ils ont mis des mots sur tout. C'est comme si ma vie devenait de la littérature. Dans chaque vidéo, un élève en prend plein la figure. Il y a un intello premier de la classe rejeté par la bande des bolosses. Une fille draguée contre son gré par 4 types bien lourds. Une autre victime de racisme et un garçon harcelé sur Facebook par toute sa classe. On devine que ce sont des fictions avec des comédiens. Ils jouent plutôt bien, mais ça sonne faux. Les gentils sont trop gentils. Ils n'ont pas une seule réaction de révolte. Ils ne crispent jamais les poings, n'éprouvent jamais de vraie colère, ne sont pas complètement seuls et parviennent toujours finalement à se confier à quelqu'un. Les méchants ne le sont pas assez. Pas un mot trop vulgaire, rien de dégoûtant. Les insultes et les menaces ne sont pas crédibles. Ni morve, ni sang, juste du maquillage qui coule de temps en temps. Il n'y a rien de sale. C'est ça qui me dérange, c'est trop propre. À la fin, systématiquement, des élèves sympas viennent porter secours aux victimes. Les harceleurs finissent toujours par avoir honte et par demander pardon. C'est de la violence à l'eau de rose. Le psy ne s'adresse pas directement à moi quand il interroge le groupe, mais son regard croise souvent le mien, comme s'il me demandait mon avis sur ce qu'on voit. C'est du grand n'importe quoi. Vous croyez vraiment que ça se termine avec un pardon pour tout le mal que je t'ai fait et que tout le monde s'embrasse? On n'est pas dans le monde merveilleux de oui-oui. Les scénaristes n'ont jamais mis les pieds dans une cour ou quoi? Peut-être qu'ils ont oublié que le collège, des fois, ça ressemble à la guerre. Je me demande quelle tête il ferait si je lui balançais tout ça. Pour chaque problème, il sort une recette miracle, un système de défense impraticable dans la réalité. Pour calmer les pitbulls qui agressent le premier de la classe, il propose un t-shirt imprimé « Je suis un télo, ça prouve que j'ai un cerveau, et le vôtre, il est où ?» Il rêve. Personne ne risquerait de s'afficher au collège avec ça sur le dos. Quand on se prend des insultes et des beignes à longueur de journée, on est tellement mal dans sa peau et dans sa tête qu'on ne va pas en rajouter en se faisant remarquer. Les adultes veulent qu'on s'affranchisse des codes. Mais tout le monde est construit sur ces codes. On doit suivre le mouvement, on n'a pas le choix. Sinon, c'est foutu. Ça m'étonnerait que ce psy connaisse la vraie violence, qu'il se soit fait mater par des plus forts que lui. Il a appris à défendre les autres dans les livres. Ses solutions sont complètement idéalistes. Je me réveille en sueur. Cauchemar. Je palpe avec prudence mes cheveux, mon visage, mes bras, mes jambes. Je suis entier. Un serpent sournois siffle dans mon oreille. Siffle, siffle sa sentence. Ludovic T. Condamné à perpétuité. J'essaye d'effacer de ma nuit le Julien grimaçant. Celui qui, l'instant d'avant, me lardait les tempes de coups d'aiguille, me démembrait et jetait mes morceaux dans des flaques de sang. Ma mère tient parole. Elle vide les placards de toutes les cochonneries et nous met au régime légumes frais, fruits, poissons et viande blanche. Elle cuisine bien, j'avais oublié. Je ne me gave plus la nuit. Pas envie de croquer une carotte à 2 heures du mat. Quand l'angoisse hache mon sommeil, je vais boire un verre d'eau sur le balcon. L'air glacé me réveille. Le quartier endormi m'apaise. On se balade à Lyon. Elle a dit « On habite à un quart d'heure de tram d'une ville magnifique et on n'en profite jamais. » On flâne du côté de l'opéra. C'est beau. Les décorations de Noël scintillent. Il y a de la musique. Je laisse flotter mon regard sur les visages. J'aime être anonyme, marcher au milieu des autres sans signe particulier. Oublier à un moment que je suis un sous-homme. Un déchet, une grosse larve inutile. Je m'amuse à imprimer sur ma rétine une mosaïque humaine. Ce nez, cette bouche, ce cou, ce front. C'est amusant de ne regarder qu'un détail des gens. Cet œil, ce sourcil, ce menton, cette oreille, cette pommette. Cette pommette. Je me retourne, cherche sa propriétaire. Ce ne serait pas... C'est Alice. Méconnaissable. Tout en noir, avec des baskets blanches éblouissantes. Ses cheveux blonds relevés en queue de cheval au sommet de sa tête. Magnifique. Elle m'aperçoit à son tour et me fait de grands signes. Le groupe qui l'entoure se tourne dans ma direction. « Ouh, Ludo, viens !» Je n'en reviens pas. Ma mère n'a pas entendu, elle m'entraîne plus loin. Cette fois, c'est moi qui refuse de franchir la ligne. Qu'est-ce qu'elle fait des règles, Alice? Qu'est-ce qui lui prend? Demain, Julien et sa clique réintègrent le collège. Elle l'a oublié? Sueur froide. Je pourrais sécher les cours? Non, mon vieux, faut y aller. Ils seront là et alors, tu t'y es préparé? Personne n'est dupe, a dit ta mère. Nous savons tous que c'est eux qui t'ont mis dans cet état. Et ils savent que nous savons. Tout le collège va les avoir à l'œil. Allez, avance, mon pote. T'inquiète, si les murs veillent, t'as pas à t'en faire. J'ai envie de vomir. Sifflement dans mon oreille, sifflement sarcastique de serpent. J'avance sur la passerelle, l'angoisse au creux du ventre. J'ai envie de pleurer, de retourner m'enfouir sous ma couette. J'ai mal à la tête. Mon corps est parcouru de spasmes incontrôlables. Je m'agrippe à la rampe d'escalier, souffle court. Je dois me calmer, respirer, penser à autre chose. Je ferme les yeux. Alice. Elle était différente hier. Différente, mais vraiment elle, J'avais l'impression de la voir pour la première fois. Je pensais que c'était une fille timide. Là, elle avait l'air libre. J'ouvre les yeux. Je regarde le ciel. Il est bleu. Il semblait gris tout à l'heure.
Tu vois, les couleurs existent. En route, Ludo.
Un oiseau passe au-dessus de ma tête. Il plane un instant avant de disparaître du vent dans les ailes. Sur le parking, M. Germain sort de sa voiture. Il m'aperçoit et me sourit. J'y vais. Je me glisse dans la cour, ils sont à côté du foyer. Je me dirige discrètement vers l'angle opposé. Apnée.
Inspire. Expire. Respire.
Je les observe en douce. Un nerf s'excite sous ma paupière, vision syncopée. Ils n'ont pas dû me repérer, ils ne m'adressent pas un regard. Quand la prof de maths annonce à Julien que désormais sa place sera à côté de Bérénice, au premier rang, il ne dit rien. Il s'assoit sans se retourner. Pas un geste déplacé. Si c'était un piège. S'ils attendaient que je baisse la garde pour me tomber dessus. Ça, ce n'était que le début de l'histoire. En fait, Ludo n'en a pas encore fini. Mais la suite, c'est à toi de la découvrir.